Alors, bonjour tout le monde. Donc, nous voici à notre cinquième émission Action citoyenne présentée par l'association Attaque Oise, donc mouvement d'éducation populaire pour tout ce qui est transition sociale, écologique et essentiellement les questions financières. Alors, aujourd'hui, un petit changement. Nous allons inverser, c'est Didier qui va être l'interviewé et c'est moi, donc Thierry, qui va jouer le rôle d'intervieweur. Alors, c'est la cinquième, donc comme j'ai dit précédemment. Didier, est-ce que tu peux nous dire l'idée centrale que nous allons développer aujourd'hui?
Bonjour Thierry, donc c'est Didier. Aujourd'hui, nous allons parler de fiscalité, d'impôts, et nous allons commencer par. Enfin, le but, c'est de vérifier si l'article 13 de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme, excusez-moi, est respecté. Et je vous le rappelle, cet article 13, c'est pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Alors, leurs facultés, je pense que c'est, vous voulez dire leurs moyens, quoi, en
Ah
fonction de
ben,
leurs moyens.
c'est un langage de 1793.
Exactement. Donc, nous allons vérifier si chacun, chaque citoyen français, contribue à ce qu'on peut appeler à la société, à faire société, hein, c'est-à-dire et si ces impôts sont équitablement répartis suivant les moyens de chacun. Donc, on va faire un petit peu d'histoire aussi, parce que nous allons rappeler que l'impôt sur le revenu, qui n'est pas le seul impôt, hein, dont on va parler, bien sûr, n'a été créé en France qu'en 1914, hein, la veille de la Première Guerre mondiale, qu'à l'époque, il était très très faible, il touchait très peu de personnes, et que, après, ça a augmenté en personnes et en volume. Et puis, après, aux États-Unis, quelques rappels aussi tout simples. Hein, les taux d'imposition ont été très élevés pendant beaucoup d'années, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Donc, apparemment, le taux d'imposition qui avait atteint des 91% en 1941 et puis qui s'est établi quand même pendant très longtemps jusqu'à 80%, n'a pas empêché la croissance. Contrairement à tout ce qu'on voudrait nous faire croire, ou tout ce que certains voudraient nous faire croire, que trop d'impositions entraînerait un déficit de croissance, etc.
La fuite des grandes fortunes, trop d'impôts tue l'impôt, enfin tous ces slogans qu'on entend
Voilà.
et que tu vas nous aider
Bon,
à
on va essayer
démonter.
de démontrer le contraire. Et puis, je voudrais aussi rappeler qu'on peut aller loin comme ça. Si admettons qu'on soit d'accord avec ceux qui nous disent que trop d'impôts, c'est pas bien, etc. Je voudrais rappeler quelques chiffres, c'est-à-dire que supprimons l'impôt, okay, tous les impôts pratiquement, hein, et puis voyons ce que ça donne. Si vous êtes capable de donner 8 000 euros pour un collège pour que votre enfant suive des cours. Si vous êtes capable de payer 1 000 euros par mois pour faire garder votre maison, parce que comme il n'y a plus de gendarmerie, il y aura quand même quelques voleurs, hein. Et puis, si vous êtes capable de donner 6 000 euros à chaque fois que votre petit dernier va se faire opérer pour quel que soit le motif. Enfin, voilà, on peut enchaîner comme ça les dépenses qui, effectivement, ne seront plus payées par l'impôt, mais à chaque fois que vous aurez besoin et dont les sommes peuvent être considérables. C'est la société du 19e siècle, hein, en gros. Quand on est malade, on meurt. Et quand on est au chômage, on devient pauvre. Voilà.
Alors, sur l'idée centrale, c'est donc Attaque, qui est un mouvement citoyen pour l'émancipation et la justice sociale. Tu es en train de nous dire, en filigrane, que nous sommes pour l'impôt,
Oui.
à condition qu'il soit juste, équitable et qu'il serve réellement les intérêts de la société, les biens communs.
L'impôt, c'est ce qui fait société.
D'accord.
Voilà. Et je voudrais aussi, dans le sens, un certain candidat à la présidentielle disait que il se demandait ce que c'était qu'être un bon Français. Je pense qu'être un bon Français, c'est pas simplement avoir un prénom français, c'est aussi participer à la vie citoyenne dans la mesure où on paye un impôt équitable et juste, comme tout à chacun. Voilà.
Je crois que c'est une idée dont nous avons déjà parlé, mais de manière très fugitive. C'était par rapport à la loi sur le séparatisme. En
Exactement.
définitive, les riches font sécession par tous les mécanismes d'évasion fiscale. Et cela a déjà été démontré.
Ceux qui sont,
Voilà, on tenait simplement à le rappeler.
Ceux qui font sécession, séparatisme, ne sont pas toujours ceux qu'on met en avant.
D'accord. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une idée force, justement, qui renforce cette idée de l'impôt doit être juste?
Alors, pour qu'un impôt soit juste, il y avait un impôt qu'on appelle l'impôt progressif, enfin la méthode progressive, dirons-nous, qui est appliqué uniquement sur l'impôt sur le revenu en France, dont on va essayer d'expliquer un peu le processus. Et à TAC, on pense que c'est le seul moyen pour que l'impôt soit équitablement payé par chacun, en fonction de ses revenus, bien sûr, mais pas de façon uniquement proportionnelle, parce qu'on pourrait croire que la proportion, on applique un taux à chacun et puis on paye en proportion de ses revenus. Non, le progressif, ça veut dire que vous payez, mais il y a un système de tranches qui permet de faire payer plus ceux qui gagnent plus. Voilà.
Tu reviendras dessus ultérieurement?
Alors, soit on en parle maintenant, c'est comme on veut.
Moi, c'était parce qu'on a préparé ensemble, vous en doutez, chers auditeurs.
Ah bon?
Oui. Donc, l'idée force d'attaque, c'est de mettre effectivement un impôt progressif, aussi bien sur l'impôt sur le revenu, des particuliers, bien évidemment, sur les sociétés et sur les droits de succession. Donc, ces trois éléments, on le présentera. Mais le mécanisme même dont vient de parler Didier, c'est-à-dire ce qu'on appelle un impôt progressif, le principe de l'escalier avec le nombre de tranches, je pense que c'est quelque chose qui doit absolument être compris parce qu'on sait d'expérience et d'échange avec beaucoup de personnes avec qui nous parlons qu'il y a des confusions énormes du style « Ah ben non, je ne veux pas avoir une heure supplémentaire de travail en plus parce que ça me ferait changer de tranche et du coup je paierais plus que si je gagnais moins ». Ce qui serait bien évidemment une ineptie, mais justement ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc si tu peux essayer d'expliquer. Alors on est à l'oral, c'est la radio. C'est super.
Il n'y a pas de tableau, là.
Il n'y a pas de tableau. Avec un petit tableau, ce serait plus simple. Donc, c'est un gage. Didier, peux-tu nous expliquer ça le plus clairement possible, en sachant que je sais que c'est difficile?
Alors, je ne vais pas botter en touche, mais tu m'avais donné un exemple en voiture, et je pense qu'il est assez parlant, quitte à revenir après sur la méthode générale.
D'accord. Tu veux que je le donne?
Oui, je préfère, au moins pour amorcer.
Alors, je l'ai écrit, voilà. Donc, en prenant l'impôt progressif sur les revenus, ce qu'on appelle l'IR, annuel, l'information qu'il faut que les gens aient, donc ça, c'est la situation actuelle, c'est que jusqu'à 10 200 euros de revenus nets annuels pour une personne, le taux d'imposition, c'est zéro. C'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui nous disent, en particulier des gens qui sont contre l'assistanat, donc plutôt de droite, soyons clairs, nous disent « mais en France, il y a plein de gens qui ne payent pas d'impôts ». Donc ça va bien comme ça.
On reviendra là-dessus aussi, voilà. Sur le fait que...
Donc, si vous avez un revenu annuel individuel, entre 10 200 et 26 000, la tranche d'imposition, c'est 11%.
Donc, imaginons qu'au lieu de gagner 10 225, je gagne 11 000.
Voilà.
Donc, une différence de 800 euros, en gros.
Alors, à 10 200, je n'avais aucune imposition. À 11 000, il y a des gens qui pensent... combien vous nous avez dit tout à l'heure déjà? Ah oui, au-delà de 10 200, on paye 11%. Donc, on paierait 11% sur les 11 000. 11% multiplié par 11 000, ce serait, globalement, pour arrondir, 1 200 euros d'impôt. Ce qui voudrait dire que la personne qui touche 11 000 par an, avec les impôts, moins les impôts 1 200, toucherait en définitive moins en fin d'année que quelqu'un qui percevrait moins. C'est évidemment inconcevable. Donc, pour être très précis, elle ne paye 11% que sur les 800 euros, la différence entre les 11 000 et les 10 200, dépassant le seuil de 10 200. Et donc, elle ne paierait que 88 euros d'impôt. Voilà. Alors, donc, c'est ce même principe en escalier qu'il faut comprendre. Donc, je termine les chiffres comme
oui,
ça.
Vas-y.
Donc, il y a une troisième tranche qui va de 26 000 à 74 000, on arrondit, qui est imposé à 30%. Ensuite, de 74 000 euros à 160 000 euros, je rappelle, net annuel par personne, le taux d'imposition est de 41% et pour les plus de 160 000 euros, ils sont imposés à 45 euros. C'est ce qu'on appelle le taux marginal de l'impôt. Voilà, je te laisse Didier.
Oui, alors ce qu'on appelle le revenu net, c'est le revenu global de tout un foyer divisé par le quotient familial, c'est-à-dire par le nombre de personnes. Hein. C'est pas le revenu entier. Alors après, il y a un petit calcul qui permet de rétablir la situation, qui permet de multiplier par le même quotient familial. Bon voilà, j'espère qu'on a été assez clair, qu'on a essayé de démystifier et puis de décortiquer tout ça de façon assez rapide et assez claire.
Donc c'est bien, vraiment comprendre l'idée, la progressivité, c'est le principe d'un escalier. Autrement dit, quelqu'un qui a 160 000 euros de revenus nets annuels personnels, il ne paye 45% d'imposition que sur ce qui dépasse les 160 000 euros. Voilà. Donc tout le reste, c'est déjà pour lui. On ne met personne sur la paille, il n'y a aucun problème.
Voilà. Alors, à part cet impôt sur le revenu, il y a bien sûr d'autres impôts que nous payons, d'autres taxes. Alors, les principales, les plus connues, enfin, les principales, hein, taxe sur la valeur ajoutée, la fameuse TVA, ça représente 31% du budget. Des recettes, de l'ensemble des recettes. L'impôt sur le revenu, donc, dont on vient de parler, c'est 26%. L'impôt sur les sociétés, donc c'est les sociétés et ces entreprises, hein, ça représente 13%. La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, c'est la fameuse taxe qu'on paye sur notre pétrole actuellement et qui peut atteindre parfois 50% du prix qu'on paye à la pompe.
Hein. Sur l'ensemble de l'énergie. C'était mais anciennement la TIPP.
Pas autrement voilà. Autrement aussi que sur le pétrole. Donc c'est 18,4%. Et puis tout ce qui est autres impôts indirects, etc., notamment les impôts de succession, donations, les enregistrements, ça représente 17%.
Et puis il y a un petit point qui est anecdotique, mais c'est ce qu'on appelle la taxe sur les salaires. Je prends simplement par rapport au problème qu'on connaît actuellement sur les hôpitaux. Les hôpitaux payent une taxe sur les salaires. Cette taxe serait enlevée. Ça allégerait énormément la facture des hôpitaux qui ont des problèmes d'endettement actuellement et un manque de financement. Mais c'était simplement pour illustrer ce qu'on appelle les taxes sur les salaires, qui ne concernent pas tout le monde. Hein. C'est les banques, les hôpitaux, le secteur associatif.
Bien. Voilà. Alors, l'ensemble de ces recettes, ça fait pour l'année 2022, ce qui est prévu, hein, ce qu'on appelle la PLF, projet de loi de financement, 311 milliards d'euros.
310 milliards, oui,
bon,
c'est
on
ça.
On ne va pas revenir sur les déficits, etc. Les impôts, ça fait partie des recettes. Et en face, il y a des dépenses. Alors, la plupart du temps, là, c'est moi qui fais la question et je vais faire la réponse. on nous dit qu'on dépense trop en France. Hein, qu'il y a... Non seulement on est trop taxé, mais en plus, on dépense trop. Alors, d'habitude, avec Thierry, on a l'habitude de démontrer que c'est pas parce qu'on dépense trop, c'est qu'il n'y a pas assez de recettes. Et moi, j'ai voulu prendre le problème à l'envers, en démontrant que c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de recettes, c'est qu'on, finalement, on dépense pas trop, et on dépense même de moins en moins. Alors souvent, dans la tête des gens, et dans nos politiques, hein, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'on dépense de plus en plus, hein, et c'est pour ça qu'ils veulent supprimer les fonctionnaires, qu'ils veulent diminuer les retraites, etc. Je me suis amusé à reprendre ce qu'on appelle un extrait des rapports de la Cour des comptes. Qui est quand même un organisme assez officiel, qui n'est pas de gauche, je pense pas.
Enfin, assez sérieux, on dira.
C'est ce qu'ils appellent les résultats de l'exécution du budget. Je les ai repris sur 4 années. 2013, les dépenses nettes du budget général ont diminué de 0,89 milliards. Donc on n'a pas dépensé plus cette année-là. 2015, grâce aux économies réalisées, la dépense hors charge de la dette et pensions a diminué de 1,4 milliards par rapport à 2014. Donc on était encore en baisse de dépenses. 2018, malgré des recettes plus élevées que prévues, le déficit de l'État s'est toutefois creusé en raison des baisses d'impôts. Donc voilà. 2019, le déficit budgétaire de l'État s'est accru par rapport à 2018. Cette aggravation est en grande partie due à des mesures nouvelles aux effets exceptionnels temporaires, transformation en allègement de cotisations sociales du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Le fameux CICE, donc c'est un crédit d'impôt, donc ce n'est pas des dépenses supplémentaires. Voilà ce que je voulais un peu dire. Maintenant, Thierry, si tu veux démontrer que sur les recettes, on a aussi un manque de recettes, je veux bien te laisser faire.
Bah, c'était tout simplement faire un tout petit rappel sur les émissions qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire en repartant toujours de l'exercice du budget. Un budget, c'est des recettes et donc des dépenses. Le projet de loi de finances dont parlait Didier pour 2022, donc 310 milliards de recettes, il les a décortiqués tout à l'heure, il les a annoncés. Et ce qui est prévu, c'est 463 milliards de dépenses. Donc là, ça prend un petit peu à contre-pied ce que vient de dire Didier, c'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation des dépenses, mais cela est dû essentiellement à une période très particulière, c'est le quoi qu'il en coûte, qui n'a pas été une mauvaise chose. La plupart des économistes, quel que soit leur bord politique d'ailleurs, reconnaissent qu'il était indispensable de soutenir l'économie, de soutenir les ménages. Ce qui a été fait, même si ça aurait pu être fait différemment, avec des engagements différemment. Ouais. Mais voilà, c'est pour dire...
Les mêmes économistes qui en 2008 préconisaient l'austérité, et qui maintenant se sont aperçus quand même que c'était pas une mauvaise chose de...
D'accompagner. Voilà. C'est-à-dire que l'argent a une utilité, la monnaie a une utilité sociale et une utilité écologique.
On verra jusqu'où ils peuvent aller.
C'était simplement pour reprendre par rapport à l'idée de Didier, on a trop dépensé, non, on n'a pas récupéré suffisamment d'argent. La situation, pour l'année en cours, c'est-à-dire 2022, prévision 463 milliards de dépenses et 310 milliards de recettes, donc un déficit de 153 milliards. Donc on vous renvoie sur l'émission précédente, sur la dette. Ce que l'on avait dit, ce n'est pas un problème en soi. C'est mieux si on n'a pas de dette, parce qu'on a toujours des pressions qui peuvent s'exercer sur les personnes et sur l'État. Mais ce n'est pas un problème en soi. Par contre, le fait qu'il y ait aussi peu de recettes renvoie à la problématique générale qu'on avait développée dès la première émission, c'est-à-dire qu'il y a un manque de recettes, et on les avait chiffrées à l'époque. Les ordres de grandeur restent toujours à peu près les mêmes, hein, même si les chiffres ne sont pas exactement justes. C'était 100 milliards qui sont dus à l'évasion fiscale, on en a parlé, c'était la deuxième émission. 100 milliards dus aux niches fiscales. Là, on va voir que par rapport au mécanisme d'évitement de l'impôt, les niches fiscales sont un mécanisme très important donc qu'il faut connaître. Et puis, il y avait 100 milliards qui sont dus à la non-imposition que l'on estimerait juste pour que chacun paye en fonction de ses facultés, comme disait Didier, par rapport à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme de 1700. Alors, j'ai dit 93 tout à l'heure. Non, c'était la Première République. La Déclaration, c'est 1789. Mais voilà. Donc, c'était simplement pour rappeler tout ça. Et donc, la question d'une imposition juste via des impôts progressifs sur le revenu...
Prend tout son sens.
Sur les sociétés et sur les successions est quelque chose que nous allons essayer de contribuer à développer et de marquer les esprits pour montrer que... tous ceux qui, en particulier actuellement dans le cadre de la campagne électorale, penchent pour une diminution des impôts...
Cotisations sociales.
Et des cotisations. On fera peut-être une autre émission dessus. C'est méfions-nous, méfiez-vous de ce qu'il y a derrière.
Voilà. Parce que, je ne voudrais pas revenir à ce qu'on a dit au tout début, mais ce que nous n'allons pas payer en impôts, nous paierons autrement. Hein? Alors on paiera parce qu'un jour on aura besoin de se faire soigner, on sera au chômage ou quoi que ce soit, ou à la retraite, et là on verra la différence entre... voilà. Et puis, faut pas se leurrer, hein? Ce qu'on paye pas non plus en impôts, à chaque fois qu'on aura besoin de payer de la TVA ou quoi que ce soit, c'est les cotisations sociales notamment, c'est du salaire différé, hein, ni plus ni moins. Mm-hmm. Donc effectivement on le touche pas le jour même, on le touche après, ou on le touche quand on en a besoin. Ça, c'est très important.
Alors, est-ce que tu peux nous dire précisément ce que représentent les impôts et les taxes ? C'est-à-dire, non pas le décortiquage, comme tu viens de le dire, mais du point de vue de l'impact que ça a sur les Français. Quand on dit que 60% des Français ne payent pas d'impôts, donc ils ne payent pas d'impôts sur le revenu.
Oui, ils ne payent pas d'impôts sur le revenu, c'est-à-dire ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Par contre, chaque Français paye la TVA quand il consomme un bien, hein, quand il achète un bien. Il paye la TVA, qui est en général à hauteur de 20%, hein, globalement.
La
plupart du temps. Et donc, et il est bien certain que lorsque vous avez de gros revenus, même si vous consommez un peu plus, proportionnellement, vous épargnez aussi beaucoup plus.
Ça pèse moins dans le budget.
Donc, proportionnellement, un petit revenu, comme il consomme pratiquement tout ce qu'il a en revenu, il consomme, enfin, il paye beaucoup plus d'impôts qu'un gros revenu. Voilà, alors, là, c'est un peu proportionnellement, hein, je veux dire. Voilà.
Donc, là, c'était, je te tendais une perche, c'était sur la TVA, donc bien évidemment, tu as répondu. Mais il y a également ce qui concerne la situation actuelle sur ce qu'on appelle la crise de l'énergie. C'est-à-dire que les foyers les plus modestes sont impactés de plein fouet par l'augmentation de toutes les taxes qu'il y a sur enfin, le prix en tant que tel, et à l'intérieur de ce prix, les taxes de la TICPE.
Bien sûr.
Voilà.
Et en plus, souvent, ce sont des gens qui habitent dans des logements mal isolés, donc qui ont des factures d'énergie importantes et qui sont contraints, quoi. Je veux dire, on ne peut pas non plus se passer un hiver sans se chauffer, voilà, tout simplement.
Sans parler de l'utilisation des voitures.
Oui, les voitures. Alors, on va peut-être finir sur les propositions d'attaque.
Oui.
Bah là, je te laisse les lire parce que quelque part, c'est quand même toi le porte-parole d'Attaquoise. Donc, c'est à toi de dire quelles sont les propositions d'attaque par rapport à une refonte de la fiscalité dans toute sa globalité, je pense.
Il nous reste 8 minutes. Alors.
2 minutes.
Non, parce qu'on a démarré. Ah voilà, ouais. Et voilà, c'est pour ça que j'ai vu que tu t'inquiétais inutilement. Donc, peut-être. Préciser, donc on a parlé de la progressivité sur le revenu, mais peut-être faire des propositions, enfin expliquer le mécanisme sur la progressivité pour les sociétés et la progressivité sur tout ce qui est patrimoine et droit de succession. Donc si tu veux, je peux enchaîner.
Alors, sur les sociétés.
Voilà. Et du coup, quand on a compris ce principe, ça justifiera les propositions qu'Attaque fera et on conclura par cela.
Vas-y. Ce qui se passe sur les sociétés, c'est que. C'est vrai, il est vrai que le taux d'imposition sur les sociétés en France est l'un des plus élevés en Europe. Effectivement. Donc, on met ça en avant pour dire que les entreprises ne sont pas compétitives. Et donc, pour améliorer leur compétitivité, on va diminuer ces impôts de ce qu'on appelait les impôts de production, notamment. Mmh. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, entre le taux affiché et le taux réel, c'est souvent très différent. Globalement, les entreprises, les grosses entreprises, payent nettement moins que les petites, parce qu'ils n'ont pas de moyens de passer, parce que les petites entreprises n'ont pas les moyens de se payer
des avocats fiscalistes.
Qui leur permettra de déduire certaines choses, etc., de bénéficier de crédits d'impôt, etc. Donc globalement, il y a déjà une inégalité entre les petites les moyennes entreprises et puis les grosses entreprises. Et puis, sur les impôts sur les sociétés, si on veut améliorer leur compétitivité, il y a souvent quelque chose qu'on oublie, c'est que, par contre, là, la France est aussi championne d'Europe dans le versement de dividendes. Donc, il ne serait peut-être pas incongru de se poser la question de savoir si, éventuellement, en versant un petit peu moins de dividendes, on pourrait améliorer aussi la compétitivité de ces entreprises. Et le troisième point, sur l'attractivité de la France, hein, par rapport à l'implantation de sociétés extérieures, enfin internationales, il n'est pas démontré que le taux d'imposition soit un frein et que ce n'est pas le seul critère qui permet de dire qu'une entreprise va s'installer en France ou va préférer s'installer en Belgique ou ailleurs. Et c'est même souvent le contraire. Il y a tout un contexte, un marché, les infrastructures, la sécurité judiciaire qui est importante, savoir où on va, comment on va être. Voilà. Donc, ce taux d'imposition qui est tout le temps mis en avant et qui d'ailleurs est passé de 33 à 25... c'est pas forcément très très opportun de le mettre en avant de cette façon-là, en tout cas.
Alors sur les sociétés, parce que dans les propositions, après on va pas le redécliner point par point. Donc sur les sociétés, la proposition qu'on fait nous, c'est justement un impôt progressif également, en fonction du chiffre d'affaires ou du bénéfice net. Bon là, il faut rentrer dans les questions très très précises de la fiscalité des entreprises, mais je pense que les gens ont compris l'idée. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est en fonction de la nature de l'emploi. Est-ce que c'est un emploi pérenne, un emploi précaire? Est-ce qu'il y a l'utilisation abusive de CDD?
La lutte contre le chômage,
Cet aspect des choses. Et puis, tenant compte de la première émission, quand on avait dit fin du monde, fin du mois, même combat, donc les aspects écologiques, c'est la prise en compte également de l'effort de l'entreprise dans sa capacité à investir, à réinvestir donc les bénéfices, de façon à diminuer ce qu'on appelle les externalités, les coûts liées à la pollution. Donc, comme c'est un secteur qui va prendre de l'importance, le fait que des entreprises investissent de l'énergie propre, diminuer leur bilan carbone, etc., devrait être également un élément qui serait pris en compte pour évaluer la progressivité de l'impôt sur les sociétés. Voilà.
OK.
Alors, il y a le troisième sur les successions.
L'ISF, oui. On n'en a pas beaucoup parlé. Comme quoi, on peut s'en passer de l'ISF. On peut s'en passer d'en parler.
Hein. Les gens connaissent notre position dessus. Oui, par contre, sur les sociétés, sur le patrimoine, ce serait important qu'on aborde cette question.
J'adore le vocabulaire utilisé par notre président. Je trouve que parfois, il trouve des mots qui... Et moi, j'avais noté, sur les droits de succession, faut-il emmerder les héritiers?
Ah oui.
Thierry, peux-tu répondre à cette question-là? Est-ce qu'ils méritent d'être emmerdés ou pas? Ou est-ce que tu as envie de les emmerder?
C'est un des impôts, paraît-il...
C'est une émission interdite au moins de 12 ans,
voilà,
je crois.
Qui est le plus impopulaire. On ne va pas taxer, l'État ne va pas prendre le fruit de notre travail que l'on voudrait transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. Cette expression est tout à fait entendable et on le comprend parfaitement. Alors, ce qu'il faut savoir, la première chose, c'est qu'il y a une méconnaissance vraiment énorme de la majorité des Français sur cette question-là. Parce que plus de 75% des personnes n'ont aucune imposition sur les successions qu'elles peuvent léguer, un petit livret d'épargne, une petite maison de campagne, etc. Parce que c'est moins de 100 000, alors c'est un peu plus, c'est 112 000 euros exactement. En dessous de 112 000 euros, il n'y a pas de droit de succession. Voilà. Après, il y a effectivement un début de progressivité, c'est-à-dire plus la succession est importante, plus le taux d'imposition est important. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des personnes ne payent pas d'impôts sur les successions.
13% des héritiers en descendance directe, c'est-à-dire les enfants, sont taxés. C'est-à-dire que 87% ne sont pas taxés.
Voilà, j'avais dit 75, un peu plus de 75%.
Mais là, c'est les héritiers en descendance directe.
Ah oui. Alors, effectivement, il y a une anomalie dans ce droit qu'il faudrait corriger. C'est que pour tout ce qui est succession-héritage, en droit indirect, c'est-à-dire pour des cousins, pour ce qui sort de la lignée directe enfants-petits-enfants, le taux d'imposition est à 60%. Et là, ça peut sembler effectivement énorme. Donc, comme il y a plein d'enquêtes depuis Piketty et autres qui montrent qu'il y a des inégalités de patrimoine qui deviennent de plus en plus importantes et plus importantes que les inégalités de revenus, le fait qu'il y ait une redistribution par une imposition progressive sur les droits de succession nous semble également quelque chose qu'il faudrait mettre en place. Voilà, vu l'heure qu'il est, on ne va pas développer plus. Il reste une minute. Alors, les propositions d'attaque. Didier ?
Globalement, c'est rendre le plus progressif possible en augmentant les tranches, etc., tous les impôts.
Oui.
Hein. Alors, sur les donations, je crois qu'on en a parlé, c'est de le rendre déjà plus lisible. Hein, de bien comprendre comment ça fonctionne. Il y avait eu un sondage et les gens disaient que ils pensaient que 22% des gens pensaient que le conjoint était taxé sur l'héritage, ce qui est faux parce que le conjoint n'est pas taxé du tout. Donc vous voyez, il y a quand même une méconnaissance importante et se faire de la pédagogie, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, Thierry.
Alors, deux petites choses supplémentaires dans les propositions, hormis le fait de rendre progressif aussi bien l'impôt sur le revenu sur les sociétés que sur les patrimoines et les successions, c'est moduler la TVA par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, diminuer sur les produits de première nécessité et augmenter sur les produits de luxe, et qu'il y ait également, de manière conjoncturelle et immédiate, une taxe, un impôt particulier sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les multinationales qui ont le plus profité de la crise. Donc Big Pharma, Amazon, les GAFAM, etc. Et par rapport à ça, on vous renvoie au dernier rapport d'Oxfam sur les richesses qui ont explosé. C'est des dizaines et des dizaines de milliards.
236 milliards d'euros supplémentaires engrangés en 19 mois par les milliardaires français. Avec ça, on pourrait quadrupler le budget de l'hôpital public ou distribuer un chèque de 3 500 euros à chaque Français. Voilà ce que ça donne lorsque ces milliardaires s'en mettent plein les poches.
Et donc, alors, c'est pour ça qu'on revient à notre idée de départ. L'impôt, c'est quelque chose qui doit être consenti librement à condition que les gens soient éclairés sur les mécanismes, sur les taux, de façon à ce que ce soit réellement progressif, juste, puisque c'est la meilleure redistribution possible pour les questions à la fois de justice sociale, mais également les questions écologiques. Donc, rendez-vous sur le site de RVM, 97.93.7. Voilà, je l'avais dans le désordre, mais je ne joue pas au tiercé. Et autrement, sur le site d'Attaquoise, donc attaquoise.org. Et merci à tous. Merci Didier.
Alors, pour finir en beauté, je dirais que vive l'impôt et vive l'impossible.
Voilà.